Chapitre 12. Regardez la vérité en face. Légendes urbaines. Pour ne plus souffrir d'insomnie, il faut créer les conditions idéales pour une bonne nuit de sommeil. On fait attention au lieu et au moment où l'on s'endort, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte la manière dont on traite son esprit et son corps pendant la journée. Les conditions de vie modernes perturbent le sommeil. Nos modes de vie provoquent stress et anxiété. Si la première cigarette que nous fumons est un choix, la deuxième n'en est déjà plus un. Nous sommes dépendants. Mais parfois, dès le départ, nos choix de vie n'en sont pas. Nous ne choisissons pas de travailler tard ni de nous inquiéter pour nos enfants. Dans le chapitre 2, nous avons identifié les principales habitudes qui nuisent au sommeil et nous avons montré comment elles jouaient dans ces troubles. Par exemple, les drogues comme la nicotine ou l'alcool augmentent le stress et perturbent physiologiquement le processus d'endormissement. L'anxiété est elle-même une cause majeure d'insomnie. Parmi les choses qui nous inquiètent et nous maintiennent éveillés, beaucoup ne sont pas des menaces réelles, ce sont des menaces imaginaires. Nous percevons néanmoins ces menaces et, abreuvés de fausses informations, nous faisons de mauvais choix de vie. Pour le dire clairement, nous subissons un véritable lavage de cerveau. Nous y sommes d'autant plus sensibles que nous faisons davantage confiance à l'intellect qu'à notre instinct. La plupart du temps, nous suivons le courant sans trop nous poser de questions. Même lorsque nos choix de vie finissent par se retourner contre nous, il nous est difficile de remettre en question les fausses vérités qui nous y ont conduits. Nous accusons notre manque de volonté ou notre patrimoine génétique. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à gérer ça? Ainsi résumé, les perspectives sont plutôt sombres. Je ne cherche pas à dresser un tableau alarmiste, mais à mettre en lumière la nature du problème, afin que vous puissiez le comprendre le plus clairement possible. C'est aussi simple que de se souvenir qu'il faut utiliser la bonne clé pour qu'une porte s'ouvre. À force de lavage de cerveau, manipulé par nos addictions, nous passons beaucoup de temps à forcer la porte en vain. Plus vous avancerez dans votre écoute, plus la clé vous semblera évidente et plus vous serez enthousiaste à l'idée d'ouvrir la porte de votre prison. Vous comprendrez qu'il existe une solution simple à vos troubles du sommeil et qu'elle est à votre portée. Votre soi-disant manque de volonté ne pourra pas y faire obstacle. Pas plus que cette personnalité ou ce patrimoine génétique sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Vos yeux s'ouvrent pour découvrir une toute nouvelle réalité qui s'annonce merveilleuse. Elle vous aidera à faire des choix de vie qui vous mèneront vers un bonheur authentique. Vous regarderez enfin la réalité en face. Mais je ne suis ni fumeur ni alcoolique. Nous avons beaucoup parlé de la nicotine et de l'alcool. Ces exemples très courants illustrent bien la façon dont la dépendance fonctionne et déforme notre sens de la réalité. Si vous avez la chance de ne pas fumer et de ne pas boire, nous espérons que vous avez compris le principe et que vous l'avez appliqué à la source de vos insomnies, qu'il s'agisse d'une alimentation inadaptée, d'un usage inapproprié des écrans, de jeux d'argent, de dépenses excessives, de surmenage, de coucher tardif ou de toute autre habitude ayant un impact sur le sommeil. Vous avez peut-être développé une addiction au jeu sans le savoir. Lorsqu'on pense aux jeux d'argent, on pense en général aux courses de chevaux, aux casinos ou aux plateformes de jeux en ligne qui se développent depuis quelques années et piègent des millions de personnes. Mais le phénomène va bien au-delà. Dans de nombreux métiers, le jeu fait partie intégrante du quotidien. Faut-il investir dans telle machine? Faut-il conclure tel marché? Faut-il répondre à tel appel d'offres? De nombreuses décisions professionnelles comportent un risque. Chaque fois, cette prise de risque déclenche une réaction en nous. On choisit de lutter ou de fuir. C'est ce qu'on appelle le flight or fight. Si l'on passe trop de temps à s'inquiéter des risques qu'on prend ou que l'on ne prend pas, on finit par en perdre le sommeil. En perdre le sommeil. L'expression en soi est éloquente. Être contraint de prendre des risques, ce peut être quelque chose d'aussi simple que de devoir choisir de dire ou de ne pas dire ce que l'on pense à son patron. Appréciera-t-il votre honnêteté ou vous montrera-t-il la porte? Si les décisions que vous devez prendre au travail vous angoissent, essayez de repenser votre rapport au risque. Cette mise en danger en vaut-elle vraiment la peine? Ce que vous pourriez gagner sur le plan financier compensera-t-il ce que vous perdez sur le plan du bien-être? Ou peut-être que vous avez simplement besoin d'apprendre à mieux vivre ces moments d'inconfort? Vous aimez la part de risque que comporte votre travail? Vous la trouvez excitante? Il se peut que vous en soyez devenu dépendant. Dans ce cas, vous n'avez probablement pas conscience du mal que cela vous fait. Si vous souffrez de troubles du sommeil et que vous êtes souvent conduit à prendre des risques dans votre travail, la solution se trouve peut-être là. Vous pourriez apprendre à mieux gérer ce type de situation pour ne plus être excité et les aborder avec calme. Le piège que nous avons longuement décrit fonctionne de la même manière pour toutes les mauvaises habitudes que nous développons. Il est important que vous examiniez vos choix de vie un à un et que vous demandiez à chaque fois « Est-ce que cela me rend heureux ou est-ce que cela me fait du mal ?» Votre mode de vie devrait ménager des conditions de sommeil idéales. Chacun de vos mauvais choix a un impact et l'effet en est immédiat. Certains sont plus néfastes que d'autres, bien sûr, mais c'est en les remettant tous en question que vous pourrez faire le tri, identifier ceux qui affectent le plus votre sommeil et établir ainsi des priorités. Prenez le temps d'examiner les mythes qui nous poussent à faire ces mauvais choix, en termes de mode de vie comme d'alimentation. Démêlez ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la fiction. Essayez d'être encore un peu patient lorsque je fais référence à des dépendances comme l'alcool et la nicotine. Ce sont des analogies qui fonctionnent. Si vous ne buvez pas et ne fumez pas, vous pouvez appliquer ces analyses aux problèmes que vous avez identifiés de votre côté. C'est mon choix. L'argument est très populaire parmi les fumeurs, les buveurs, les joueurs, etc. Beaucoup disent des choses comme « on n'a qu'une vie » ou « tout le monde meurt à la fin ». Ils revendiquent le droit de faire ce qu'ils veulent pendant cette vie qui leur appartient. Mais demandez-leur s'ils se souviennent du moment où ils ont choisi, en toute conscience, de devenir fumeurs, alcooliques ou joueurs. Ils ne pourront pas vous répondre. La vérité, c'est que ce ne sont pas des choix. Tout comme personne ne choisit sa langue maternelle. Cela fait simplement partie de la culture dans laquelle nous avons été élevés. Au tout début, nous décidons d'essayer telle drogue ou d'adopter tel comportement addictif. Puis nous décidons de persévérer jusqu'à ce que cela ne nous rende plus malade. Mais même ce choix se fait sous la pression sociale. Puis, vous devenez accro et il n'est plus du tout question de choix, mais de dépendance. Si les fumeurs choisissent de continuer à fumer, pourquoi trouvent-ils si difficile d'arrêter ? Ils ne fument pas par choix, mais parce qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer leur libre arbitre. Toutes les addictions fonctionnent de la même manière. On estime que la méthode d'Alan Carr a aidé environ 50 millions de personnes à retrouver leur liberté. Avec elle, ce qui semblait difficile devient facile. C'est aussi simple que ça. C'est un plaisir. Les joueurs compulsifs prétendent aimer parier. En avez-vous déjà observé un en action ? Impossible de ne pas voir l'intensité de ses émotions, sa concentration, ses gestes presque machinaux. Il est évident qu'il ne savoure pas chaque pari. Impossible de trouver même une trace de plaisir à chaque pièce qu'il enfonce dans la machine à sous, à chaque lancer de dés, tour de roue ou partie de cartes. Chaque nouveau pari est englouti dans la frénésie du jeu. Ce spectacle ressemble beaucoup à celui que l'on offre quand on mange une barre de chocolat. On est impatient de retirer l'emballage pour croquer une première bouchée, puis une autre encore. À peine a-t-on avalé la dernière qu'il nous faut en enfourner une autre. En quelques secondes, la barre est dévorée. On ne prend pas le temps de savourer. Cela ressemble plutôt à une course, comme si l'on devait manger le plus vite possible. Si c'était un vrai plaisir, on prendrait notre temps, non ? En ce qui concerne l'alcool et la cigarette, c'est encore plus évident. Il faut faire preuve de persévérance pour surmonter la nausée que nous inspirent nos premiers verres ou nos premières bouffées. À l'état pur, ce sont des produits hautement toxiques. Nous les consommons sans nous préoccuper du goût ou de l'odeur. On ne les choisit pas pour ça, mais simplement pour les effets de la drogue. Les fumeurs diront que certaines cigarettes sont plus agréables que d'autres. La première de la journée, celle que l'on fume en vacances ou après une relation sexuelle, par exemple. Comment deux cigarettes identiques, provenant du même paquet, pourraient-elles avoir un goût différent selon les moments ? La réponse est dans la question. C'est le moment qui compte, pas la cigarette. La première cigarette de la journée est en effet spéciale. Vous avez passé plus de temps sans prendre de dose. La cigarette que l'on fume pendant les vacances ou après une relation sexuelle est en effet spéciale. La situation elle-même est spéciale. Ce n'est pas la cigarette qui rend ces moments agréables. Fumer, c'est comme gratter un point qui démange. Ça soulage et irrite à la fois. Dans les mêmes circonstances, un non-fumeur se sentirait super bien sans avoir besoin de fumer une cigarette pour autant. J'aime le rituel. Les spécialistes du marketing en sont très conscients. Les êtres humains aiment les rituels. Ainsi, tous les produits sont conditionnés pour qu'au plaisir de la consommation s'ajoute celui de l'anticipation. Pour les fumeurs, déballer un nouveau paquet, rouler une cigarette entre les doigts, se saisir de son briquet préféré peuvent être des plaisirs en soi. Pour les buveurs, il peut s'agir de déboucher une bouteille, de faire décanter le vin, de choisir un verre adapté à la dégustation, de mettre un cocktail dans le shaker ou de verser doucement de la bière pour éviter qu'elle mousse. Réfléchissez au rituel que vous avez mis en place. À quoi vous servent-ils au fond? Il y a beaucoup à dire sur les rituels. Ils sont source de plaisir dans la vie, cela ne fait pas de doute. Mais prétendre que c'est pour eux que l'on fume, boit, etc. est absurde. Si ce n'était que pour le rituel, pourquoi ne pas s'en contenter? Pourquoi ne s'arrête-t-on pas au moment d'allumer la cigarette ou de boire le verre? Ce ne serait pas pareil, n'est-ce pas? Ce serait comme aller au restaurant sans manger. Cela me détend. Dans le chapitre 5, nous avons montré comment l'idée que les comportements addictifs détendent était infondée. Dès que les substances chimiques disparaissent de votre organisme, vous devenez nerveux et tendu. Cela fonctionne comme une démangeaison. À chaque dose, vous vous grattez et ressentez un certain soulagement, comme quand on enlève des chaussures trop serrées à la fin de la journée. Sans cet inconfort, il n'y aurait pas de raison de se sentir mieux. À chaque fois que vous êtes anxieux, le grand monstre vous pousse vers la seule chose qui vous soulage. Vous prenez une dose. Pour un temps, vous ne ressentez plus le manque, physique comme psychologique, et la certitude que la drogue vous détend en sort renforcée. Pendant ce temps, la cause véritable de votre stress ne disparaît pas. Elle s'aggrave même, car vous ne faites rien pour y remédier. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux de temps à autre dans la vie, mais pour un toxicomane, c'est un état permanent. Cela m'aide à me concentrer. Ce mythe fonctionne selon le même principe que celui de la détente. L'ennemi de la concentration est la distraction. Si vous connaissez la source de cette distraction, vous restez fixé dessus jusqu'à avoir pu y remédier. En attendant, vous êtes distrait et irritable. Mais s'il n'y a rien que vous puissiez faire, vous l'acceptez et passez à autre chose. Pour de nombreux toxicomanes, il est impossible de se concentrer sans leurs médicaments. Leur addiction fonctionne comme une démangeaison permanente. Quand ils ne peuvent pas la gratter, c'est-à-dire prendre une dose, il leur est impossible de penser à autre chose. La fixation durera aussi longtemps que la drogue restera une option. Si vous enfermez un fumeur dans une salle d'examen sans aucun accès à ses cigarettes, il sera capable de se concentrer. Fumer n'est plus une option. Cela me donne confiance en moi. C'est l'excuse classique du buveur, mais ils ne sont pas les seuls à y avoir recours. Les toxicomanes aussi. Ils confondent confiance en soi et absence d'inhibition. En société, votre timidité peut vous freiner. Elle vous empêche d'être vous-même et de parler librement. Certaines personnes semblent n'avoir aucun problème pour trouver des sujets de conversation. Vous aimeriez être aussi sûr de vous qu'eux. Alors vous buvez pour surmonter vos inhibitions. L'inhibition a pourtant une fonction. Elle nous permet de garder un œil sur notre comportement et d'éviter de faire ou de dire des choses que nous regretterions plus tard. Bien sûr, elle semble parfois étouffante, mais la noyer dans l'alcool n'est pas une bonne idée. Imagine-t-on un pilote se débarrasser de ses outils de navigation lorsqu'il vole dans le brouillard au-dessus des montagnes? Le danger ne disparaît pas. Seule la conscience du danger disparaît. L'alcool ne vous apporte rien. Les autres drogues non plus. Ils vous donnent une illusion de confiance en faisant sauter vos inhibitions. C'est dangereux à bien des égards. Ne risquez-vous pas de devenir maladroit et odieux? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir violent, de vous mettre en danger? Quand elles nous enferment, les inhibitions ne sont pas une fatalité. Il existe un moyen de les surmonter. Il suffit de s'entraîner à sortir en société en restant sobre. Vous apprendrez rapidement à laisser votre personnalité s'exprimer et vous vous apercevrez tout aussi vite que les beaux parleurs que vous enviez sont souvent des grandes gueules trop ivres pour savoir quand laisser la parole aux autres. C'est sous contrôle. Tous les toxicomanes se persuadent qu'ils maîtrisent la situation. Le contraire serait trop douloureux à accepter. Mais quand ils essaient d'arrêter, la vérité leur saute aux yeux. Ils ne contrôlent rien. C'est la dépendance qui les contrôle. Accepter que l'on ne peut pas contrôler une addiction est un grand pas vers la victoire. La moindre dose vous maintient dans le piège et vous y enfonce plus profondément. Il est trop tard pour arrêter. Comme le dit le vieil adage, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. C'est résigné que certains toxicomanes passent leur vie à gaspiller leur argent, à détruire leur santé et à s'enfoncer dans le malheur et l'impuissance. La durée de notre addiction n'affecte en rien notre capacité à nous en libérer. En fait, il est souvent plus facile d'arrêter pour les personnes qui sont enfermées dans leur dépendance depuis longtemps que pour celles qui ont une consommation plus récente et occasionnelle. Ils ont en général perdu l'illusion du plaisir. Ils consomment depuis si longtemps qu'ils ne peuvent plus ignorer que les excuses qu'ils se trouvent sont absurdes. Ils sont conscients d'être pris au piège et aimeraient pouvoir s'en sortir. Il ne leur manque que la clé pour y parvenir. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, vous avez le choix. Continuez à souffrir ou changez. Pour quelque chose d'aussi grave que le manque de sommeil, changer est le seul choix valable. Ce n'est pas le bon moment. Quand un toxicomane sait qu'il doit arrêter, mais ne sait pas comment s'y prendre, il ne lui reste plus que cette excuse. Il repousse le moment et se fixe une échéance symbolique, comme le nouvel an ou son anniversaire. Mais quand il s'agit d'améliorer sa vie, pourquoi attendre? Choisir une date particulière ne facilite en rien l'arrêt du tabac. C'est juste une excuse pour remettre le moment à plus tard. C'est surtout le signe que vous ne comprenez pas encore complètement le piège dans lequel vous êtes tombé. Vous n'avez pas surmonté totalement votre peur du succès. Quelle que soit l'habitude que vous décidiez de changer, le meilleur moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Gagnez le combat à la corde. Les excuses que nous nous trouvons confirment une fois de plus la confusion dans laquelle nous nous sommes enfermés. Elles n'ont aucun sens. Un petit examen suffit à démontrer à quel point elles sont peu convaincantes. Nous nous y accrochons parce que nous avons peur des changements que nous savons devoir opérer. En voyant les choses telles qu'elles sont et en déconstruisant le lavage de cerveau dont vous êtes victime, vous commencerez à éliminer cette peur et vous gagnerez le bras de fer. Fiez-vous à vos sens. Se reconnecter à la réalité est simple. Il suffit de faire un choix conscient. Nous avons appris à consommer de manière automatique en grandissant. Essayez de ne plus le faire. Prêtez attention au goût, à l'odeur, à toutes les sensations que vous procure ce que vous consommez. Prenez conscience de l'effet de ces produits sur vous. Ce que vous éprouvez dans ces moments-là est la preuve que vos sens fonctionnent. Ils reprennent le dessus sur le lavage de cerveau que vous avez subi. Le grand monstre cède du terrain. Savourez le fait de vous reconnecter à vos perceptions. Prenez le temps, détendez-vous. Intégrez ce réflexe à votre routine à chaque fois que vous mangez, buvez, que vous faites de l'exercice, que vous travaillez, etc. Demandez-vous, est-ce que j'aime cette sensation? Comment est-ce que je me sens? Vos sens reprennent rapidement des couleurs. Vos liens avec eux se renforcent. Interrogez tout ce que vous faites. Pourquoi ce geste? Vous êtes petit à petit gagné par une impression de pouvoir, comme si vous aviez trouvé un nouvel outil dans votre garage. N'hésitez pas à vous en servir. Il a été conçu pour faire votre bonheur.